Voilà, eh bien, nos invités sont arrivés. Quelle chance. Nous allons pouvoir commencer à parler de notre sujet. Je vous finirai mes petites nouvelles brèves tout à l'heure. Il est plus important que nous retrouvions sur notre sujet aujourd'hui. Alors, bon, bienvenue à Alba Viotto et Marion Chalut. Alba Viotto, une des permanentes d'Amnesty International à Genève. Bonsoir Alba. Et Marion Chalut, je vous le disais tout à l'heure, une des comédiennes qui participera à cette soirée du 14 janvier avec Edmé Creuset et Pierre Bovon. Bonsoir Marion. Alors, nous allons, tout d'abord, je propose que nous rappelions peut-être à tout le monde, bien que ça m'étonnerait que nos auditrices et nos auditeurs ne sachent pas ce qu'est Amnesty International, Alba. Mais peut-être quand même, si aujourd'hui vous deviez donner rapidement une étiquette d'Amnesty pour rappeler la force de cette institution, enfin, je ne sais pas si vous l'appelez institution d'ailleurs, organisation, qu'est-ce que vous donneriez comme image de force pour Amnesty ?
Comme image de force ? Je dirais que c'est un mouvement qui donne de l'espoir, dans ce sens qu'il ne baisse pas les bras malgré la morosité qu'il y a maintenant dans le monde, malgré le nombre extrêmement important de tragédies auxquelles tout le monde se confronte. Amnesty est un mouvement qui continue à dénoncer ce qui se passe, qui continue à dire que cela n'est pas acceptable, qui continue à faire pression sur les gouvernements pour qu'ils respectent les engagements qu'ils ont eux-mêmes pris. Ça me paraît être l'image d'Amnesty. C'est celle qui me paraît à moi personnellement, en tout cas, importante.
Certainement. Et peut-être, Alba, alors, pour aller réaliser ces objectifs et ce travail, quels sont les moyens qu'emploie le plus souvent Amnesty ? Là, on a annoncé un concert à Genève le vendredi 14 janvier. C'est, je crois, pas si habituel que ça comme moyen qu'utilise Amnesty. Alors, quels sont plutôt les habituels moyens, pour revenir à l'exceptionnel tout à l'heure ?
Oui. Amnesty a besoin de beaucoup de moyens, de beaucoup de bonne volonté. Plus Amnesty a des moyens, plus elle peut au fond intervenir pour les victimes dont elle s'occupe. Alors, ceci dit, tous les moyens qui respectent, si vous voulez, le mandat, le travail, la philosophie d'Amnesty est acceptable, est utile. Alors, l'un des objectifs d'une manifestation comme de ce genre, c'est de recueillir des fonds au profit d'Amnesty International. C'est le travail qu'Amnesty fait est un travail qui demande de l'argent, beaucoup d'argent. Faire des enquêtes sur le terrain, rechercher les éléments qui permettent de dénoncer les violations des droits de l'homme, assister au procès des personnes qui sont traduites en justice injustement, soigner les victimes de la torture, soutenir les familles des disparus, c'est des choses qui demandent de l'argent. Et il faut que le public le sache, ça. Aller à un concert pour Amnesty, en réalité, c'est soutenir le travail d'Amnesty. Voilà pourquoi le concert nous fait très plaisir et très important pour nous.
Mais il y a des actions qu'organise Amnesty International où les gens peuvent s'engager autrement que par en versant de l'argent. Vous l'avez dit, c'est essentiel, on sait bien, l'argent c'est le nerf de toute action, pour ne pas dire la guerre, puisque nous parlons plutôt d'action pacifique. Mais par exemple, on connaît certaines activités que propose Amnesty, comme d'écrire en très très grande quantité à des gouvernements pour demander la libération de telle personne ou des nouvelles de telle autre personne.
Voilà. Alors d'abord, une des spécificités d'Amnesty, c'est qu'elle peut vraiment utiliser toutes les bonnes volontés possibles. Tout le monde peut trouver sa place dans le cadre du travail d'Amnesty. Alors, vous avez mentionné les lettres. Ça a été dès le début une des formes d'action d'Amnesty, et une forme d'action qui a prouvé son efficacité. Tout le monde peut écrire une lettre en faveur d'un prisonnier ou en faveur d'un thème qui est défendu par Amnesty, par exemple la lutte contre la torture, la lutte contre la peine de mort. Donc chacun peut écrire, et chacun peut écrire à son rythme. Ça peut être une fois par mois, ça peut être plusieurs fois par mois, chacun peut choisir. Mais à part cela, il y a mille et mille et mille choses qu'on peut mettre à disposition d'Amnesty. Lorsque nous préparons, je parle ici à Genève, c'est là où j'ai un peu fait mon expérience, n'importe quelle manifestation comporte des démarches, comporte la confection de certains outils, des panneaux, de banderoles, de que sais-je. Il y a l'information à diffuser, il y a tenter de conscientiser les gens. Donc on peut faire beaucoup, je crois.
Il y a toujours quelque chose au niveau possible d'engagement que les gens ont envie de choisir.
Absolument.
Mais au seuil de cette nouvelle année 1994, est-ce que vous disiez encore, tout à l'heure, c'est une association qui donne encore de l'espoir. Heureusement, parce qu'il en faut une sacrée dose aujourd'hui dans le monde avec ce qui se passe. Mais vous disiez tout à l'heure, envoyer des lettres, ça a prouvé son efficacité. Il y a encore des gouvernements, puisque c'est souvent, évidemment, à l'égard des gouvernements que ces actions se portent, se mènent, qui se laissent fléchir par ce genre d'actions, qui ont peur de leur image de marque dans le monde et qui donc réagissent.
Alors, je crois que les gouvernements, les lettres, je pense qu'ils ne les lisent pas. Ils s'en foutent complètement, si vous voulez, des lettres. Mais ce dont ils ne peuvent pas ignorer, ce qu'ils ne peuvent pas ignorer, c'est l'opinion publique mondiale. Alors, lorsque on envoie des lettres, c'est sûr aussi qu'on fait tout un travail pour faire savoir qu'il y a tant de lettres. Quand nous avons fait une action Yougoslavie l'année passée, on a reçu ici à Genève plus de 750 000 lettres qu'on a déversées à la Place des Nations. Alors, si le gouvernement yougoslave n'y s'y est pas intéressé, il n'a probablement pas été tellement content de voir ça à la télévision, parce que ça a passé sur les télévisions, en tout cas européennes, nous le savons. Et c'est ça la pression. À cela, ils sont sensibles. Et à cela, chaque personne qui a écrit une lettre ou chaque personne qui était présente à la Place des Nations ce jour-là a contribué à cette pression. Alors, vous me direz que la guerre en Yougoslavie, à l'annexe Yougoslavie, est toujours là.
Je vous ai une belle grimace, c'est pour ça que vous dites ça. Oui.
Non, mais je suis tout à fait consciente de ça. Mais on peut aussi se poser la question en sens inverse, c'est-à-dire si rien ne se faisait. C'est vrai que la guerre serait là, elle serait peut-être là sous des formes encore plus atroces.
Parce qu'on a l'impression d'une telle impunité des gouvernements aujourd'hui, et même des organismes qui très officiellement brandissent la bannière des droits de l'homme, comme l'ONU par exemple, et tout se passe comme si les uns on les défend, mais les autres on les écrase. Il n'y a pas de loi humaine à peu près correcte pour tout le monde et la même.
Vous avez cité l'impunité. C'est effectivement un problème extrêmement important. Un des objectifs d'Amnesty maintenant, il faut qu'on lutte tous ensemble contre l'impunité. Dans la mesure où les gouvernements ou les gens qui violent les droits de l'homme sont certains que de toute façon, ils n'auront pas à payer pour ça, eh bien, le risque et la réalité, c'est que cela se reproduit. Donc, nous nous demandons avec insistance, et nous continuerons à le faire, c'est que les responsables doivent être traduits en justice. Il faut pas confondre ça avec la vengeance. Mm-hmm. C'est pas un problème de vengeance, c'est un problème de justice. Les personnes doivent être traduites en justice et ils doivent être punis selon la loi.
Vous pensez à une situation concrète, je suis sûre, là, Alba Vietto, quand vous dites ça, non? Parce que on connaît certains pays qui n'ont justement pas fait ça. Pensons à l'Argentine qui a complètement pardonné à tous ces généraux et autres tortionnaires au moment du retour de la soi-disant démocratie. Est-ce que ça se passera dans n'importe quel pays tout le temps comme ça?
Alors, ça s'est passé en Amérique latine, mais ça se passe partout dans le monde, y compris en Europe. En Europe, on a eu le fameux procès de Nuremberg, et cela s'est passé dans des conditions historiques qui particulières, c'est-à-dire c'était un tribunal de vainqueurs qui a jugé des vaincus, ce qui est plus facile. à faire. Hein. Et actuellement, on se trouve par contre dans une situation extrêmement plus complexe, ce qui explique pourquoi, malgré le fait qu'il y a des déclarations d'intention par rapport à des tribunaux internationaux, le fait de la difficulté à les rendre vraiment...
efficace.
Voilà, efficace. Hein. Et actuellement, aucun de ces gouvernements ou de ces chefs de gouvernement ou de ces généraux ont été traduits en justice. Et ça, on peut tout à fait passer, parler de l'Europe. On n'a pas du tout besoin. On est un continent qui a vu dans les dernières 50 années passer pas mal de dictatures. Ça va de l'Espagne au Portugal, à l'Italie, à Vichy, à l'Allemagne. Et je crois qu'il ne faut pas tellement aller loin pour trouver ces exemples.
Hein. Non, je crois qu'on va toujours chercher chez les autres et en oubliant de regarder autour de chez nous.
Mais le problème de fond, c'est que justement, ça se passe partout et que la conscientisation doit se faire partout. Nous devons demander justice.
Souvent... On oppose l'activité d'Amnesty International, Alba, à des associations ou des institutions qui, dit-on, sont plus efficaces parce qu'elles font un travail dans l'ombre. Alors qu'Amnesty, qui, au contraire, souvent porte ce qu'elle voit, ce qu'elle sait, ce qu'elle découvre sur la place publique, aurait, semble-t-il, plus de difficultés à faire son travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette division des tâches entre certaines institutions, certaines organisations ?
Moi, je pense que toute situation complexe, et celle que nous vivons maintenant dans le monde est vraiment très complexe, demande... aucune organisation peut résoudre tout le problème et dans toute sa complexité. Donc, moi, je pense que les organisations ne sont pas en opposition. Je ne vois pas Amnesty en opposition avec d'autres organisations auxquelles peut-être vous pensez en ce moment. Mais je pense
le CICR, pour n'en citer
qu'un. Par exemple, voilà. Et je crois que c'est un problème de complémentarité. Et qui est très important, le CICR peut faire des choses qu'Amnesty ne peut pas faire, tout comme Amnesty peut faire des choses que le CICR ne peut pas faire. Or, personnellement, je pense qu'il faut tenir à l'œil pour qui toutes ces organisations travaillent. Et nous, on travaille pour des victimes. Et alors, pour les victimes, il faut beaucoup de complémentarité. Mmh. Et l'important, c'est que quand cette victime est sauvée, peu importe l'organisation...
Donc, il n'y a pas de tiraillement, c'est tout le monde fait tout ce qu'il peut.
Je ne crois pas du tout.
Non, parce qu'on a tendance à entendre des affrontements. Oui. On a déjà entendu ça en Éthiopie, etc. Où on avait la sensation que les organisations se tiraient dans les jambes. Mais dans la réalité, vous avez l'impression que ce n'est pas le cas sur le terrain, en tout cas.
Enfin, je parle d'Amnesty. Moi, je n'ai pas l'impression qu'Amnesty est en opposition. Amnesty a un mandat qui est restreint. Elle reste strictement sur ce qui veut dire que c'est souvent d'ailleurs les critiques qu'on lui fait, c'est de ne pas s'occuper de tout. Et ce n'est pas parce que le tout n'est pas important, mais c'est simplement pour des raisons d'efficacité. Amnesty reste sur son mandat qui reste. Hein.
Avant que nous rentrions peut-être dans la situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'Amnesty fait très concrètement? Enfin, quel est peut-être l'objectif prioritaire d'Amnesty International en ce moment? Il me reste une dernière question qui m'importe, Alba. Toutes les actions que vous entreprenez, ce que vous savez, ce que vous cherchez à savoir, vous parliez d'enquête tout à l'heure, etc., de présence lors de procès, est-ce que c'est parce que aussi Amnesty a tissé un réseau de liens avec des gens un peu partout dans le monde qui sont eux-mêmes concernés et qui contactent Amnesty? Comment se passe le lien avec les gens qui sont eux-mêmes victimes?
Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut le préciser parce qu'il y a de la confusion dans l'opinion publique. C'est que la recherche ou la présence lors des procès est faite exclusivement par les départements des recherches à Londres. C'est donc pas les groupes locaux qui font cela. Hein. Ceci dit, Amnesty est un mouvement de base, donc il repose sur le travail de plus d'1,5 million maintenant d'adhérents dans le monde. Alors, si je comprends bien votre question, c'est comment est-ce que Amnesty reçoit toutes ces informations, sur quel réseau elle repose?
Voilà.
Alors, effectivement, Amnesty repose sur un très, très vaste réseau d'informations qui lui parviennent. Alors, l'information, c'est déjà les mass médias. Les départements de recherche à Londres, si vous voulez, dépouillent des milliers de journaux, de bulletins, d'émissions de radio, d'émissions de télévision du monde entier. Par la suite, localement, ils ont des personnes qui lui envoient des informations. Et c'est souvent, ce sont des associations d'avocats, des associations de syndicalistes, ce sont les associations de défense des droits de l'homme, ce sont des personnes également. Tout le monde peut envoyer des renseignements. Mmh. Alors, le travail des départements de recherche, c'est de vérifier, de recouper et de publier par la suite quand tout a été vérifié. Une autre partie très importante du travail de Amnesty, c'est ce que nous appelons les réseaux d'action urgente. Lorsque la vie de quelqu'un est en danger, on ne peut pas nécessairement faire des missions et faire aller vérifier sur place. On lance donc ce que nous appelons les actions urgentes, c'est-à-dire que très rapidement, dans les heures qui suivent, il y a des milliers de téléx, de télégrammes, de fax, et puis dans une deuxième vague, des lettres qui partent. Et là, Amnesty utilise un langage qui est le sien et qui est au conditionnel. Dans les actions urgentes, on utilise, cette personne aurait été arrêtée, cette personne aurait été torturée. Hein. Mais la pression s'est faite. Simplement, on n'a pas pu vérifier. Hein. Ça, c'est ce qui est l'urgence. Et ça, il y en a des milliers qui partent toutes les semaines dans le monde entier.
Ça, je ne sais pas si effectivement nos auditrices et auditeurs se rendent compte de cette immense action qui, en permanence, est organisée dans le monde face aux besoins gigantesques.
Et là, je reviens aux frais. Je ne sais pas si les gens se rendent compte qu'une action urgente, c'est plusieurs centaines de livres sterling. Mais c'est vital, c'est vital. C'est comme quelqu'un qui en a une méningite à qui on donne très rapidement quand même l'antibiotique, même s'il est très cher. Ce n'est pas un problème d'argent. Seulement, faut-il encore par la suite le trouver, l'argent?
Mais jusqu'à aujourd'hui, visiblement, Amnesty International ne s'est pas trouvé privé d'argent pour continuer son action. Il a une solidarité sur laquelle il peut compter.
Il y a une solidarité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les demandes qui s'adressent à Amnesty sont en augmentation constante. Et que donc, il faut forcément aussi augmenter les moyens pour les faire. Et alors, les moyens ne sont pas seulement en argent, vous l'avez dit, je le répète, c'est aussi en ressources humaines. De là, l'appel constant que nous faisons aux ressources humaines.
Alors, on donnera toutes ces informations, comment vous contacter à la fin de notre émission, mais je crois que c'est important, effectivement, de le dire. Alors là, pour faire une petite pause musicale, nous allons passer un extrait d'un ensemble instrumental qui se produira vendredi soir, l'ensemble instrumental All in Thai. Vous pouvez nous le présenter, Alba ?
Alors, All in Thai est un groupe instrumental qui a été formé en 1982 à Genève. Et il est composé de gens d'Amérique latine qui se sont trouvés en Suisse et des gens qui faisaient déjà de la musique, qui aiment la musique et qui ont voulu par la musique même vivre ici et également en faire un instrument de solidarité. Alors c'est un groupe que depuis 1982 donne des concerts de solidarité en soutien entre autres à plusieurs projets en Amérique latine. Et cette année, ils ont été c'est eux qui ont proposé à Amnesty de faire ce concert au profit d'Amnesty.
Thank you.
Voilà, alors c'est un extrait d'un morceau présenté par le groupe instrumental Olentai qui réunit des musiciens chiliens, péruviens et boliviens et qui se présenteront et qui joueront le vendredi 14 janvier à 20h à la cathédrale de Saint-Pierre à Genève dans un concert au bénéfice d'Amnesty International. Alba Fiotto, peut-être pour nous préciser dans quel cadre cette action très concrète, vous l'avez dit, pour réunir de l'argent, se situe. Quel est l'objectif en ce moment principal d'Amnesty? Parce que souvent, Amnesty a lancé des campagnes spécifiques contre la peine de mort, contre certaines choses en particulier, par exemple la peine de mort des adolescents aux États-Unis. Est-ce que ce concert s'intègre dans une campagne spécifique à l'heure actuelle?
Bon, d'abord, Amnesty a des campagnes en permanence, mais la campagne qui est en cours actuellement est une campagne mondiale contre les disparitions, contre les assassinats politiques et contre l'impunité. Vous voyez, il y a beaucoup de contre, mais les choses se tiennent. C'est une campagne mondiale, cela veut dire que toutes les sections dans le monde d'Amnesty y participent. Et c'est une campagne extrêmement importante parce qu'il faut savoir qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de victimes là derrière. Et c'est pour ça que cette campagne, nous la faisons sous le slogan « Sortons-les de l'ombre ». Parce que très souvent, les victimes sont un peu noyées dans les statistiques. Quand on parle de 100 000 victimes, on ne se rend pas très bien compte. Nous essayons de dire que chacune des victimes a un visage, un nom, a une histoire et a été toujours dans un contexte. Et nous pensons très, très, très important de faire cela. Donc, les personnes, le groupe Olentai était particulièrement motivé de proposer leur collaboration dans le cadre de cette campagne. Et on peut comprendre pourquoi ils viennent d'un continent qui a été très durement et qui est toujours très durement touché. Il y a encore chaque année des milliers de gens qui disparaissent au Guatemala, en Équateur, en Colombie, ou qui se font assassiner, et maintenant au Mexique. Donc c'est un continent qui continue à payer une très très lourde
poids à l'injustice, voilà, à la torture, etc. Cela, oui.
Donc on peut comprendre qu'ils étaient particulièrement motivés, quoi qu'ils l'auraient fait, même si on aurait fait une autre campagne, vous voyez. Et les autres, je pense également qu'ont voulu s'associer.
Alors on va tout de suite parler justement de ces nombreuses personnes qui se sont associées pour réaliser cette soirée-là, dont des comédiens et comédiennes, et Marion Chalut qui est avec nous en est une. Mais peut-être encore une chose, je ne sais pas si tout le monde s'imagine qui sont les personnes qui tombent sous les balles de ces gouvernements qui les font disparaître. Est-ce que ce n'est que des militants politiques engagés contre leur gouvernement et qui donc, quelque part, savent qu'ils prennent un risque en s'opposant à leur gouvernement? Mais je crois que les disparitions touchent pas simplement des gens engagés aussi concrètement et officiellement contre leur gouvernement. Les disparitions touchent beaucoup plus de gens, beaucoup plus largement.
Alors, je crois que vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas que les militants déclarés, c'est tous les militants supposés. Et dans beaucoup de régimes, la supposition devient très, très rapidement la preuve. Ils ne sont pas obligés d'ailleurs de donner des preuves. C'est en tout cas... actuellement, quand on regarde qui disparaît, il y a d'abord, bien sûr, il y a des intellectuels, mais en majorité, c'est quand même les pauvres, c'est quand même les paysans sans terre, c'est quand même les gens des bidonvilles. C'est tout ceux qui tentent de s'organiser ou qu'on suppose qu'ils tentent de s'organiser. Toute organisation paraît à toute dictature comme mortelle. Elle est effectivement si elle aboutit, parce qu'elle met en question le système. Mais il y a des gens qui disparaissent sans savoir pourquoi.
Et pas seulement dans les régimes dictatoriaux, aussi parfois dans les démocraties.
Ça peut arriver aussi dans les deux. C'est un problème d'échelle. Certains régimes ont ça vraiment comme stratégie de dissuasion. Hein. La disparition, c'est pas seulement, touche pas seulement la personne qui disparaît, touche sa famille, ça c'est, mais touche également son milieu d'appartenance, son groupe dans lequel il est. Alors, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de syndicalistes, beaucoup de leaders paysans, des étudiants, des femmes qui simplement vont, par exemple, demander pourquoi est-ce que mon fils a disparu. Elles disparaissent à leur tour. Et
vous aviez lancé d'ailleurs à un moment donné une campagne à propos des femmes en particulier. Elles, vous avez l'impression qu'elles sont visées pour des raisons particulières, les femmes, dans la répression, dans la torture, dans les disparitions?
Bon, d'abord, elles sont visées comme les hommes lorsque elles travaillent en fait au changement. Hein. Mais elles peuvent aussi être visées simplement parce qu'elles sont la femme d'un militant ou la fille d'un militant ou d'un supposé tel. Hein. Et il y a également des situations qui touchent particulièrement la femme. Par exemple, peu de personnes savent que il y a le 85%, je crois, de réfugiés dans le monde, ce sont des femmes. Hein. Et que tout groupe qui est dans des situations est potentiellement une cible de violation des droits de l'homme. Et puis maintenant, il y a des stratégies comme le viol collectif que l'on a vu en ex-Yougoslavie, mais pas seulement en Somalie. L'ampleur est aussi grande que celle de l'ex-Yougoslavie, simplement ça fait moins la une des journaux. Hein. Et le viol collectif n'est pas une histoire récente.
On sait bien que dans la dernière guerre mondiale, on vient d'apprendre les viols des Japonaises, etc.
Absolument, quoi. Oui. Absolument.
Alors, je crois que nous allons tout de suite rentrer très vif dans le vif du sujet de l'organisation de ce concert et de la participation de très nombreuses personnes. Juste quelques notes de musique encore du groupe Allen Type, histoire de tourner notre page technique, comme vous le savez, si vous êtes auditrice et auditeur fidèle.
Niña bien has dicho que estabas enamorada. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. Si te has quedado triste, no es porque yo me haya ido. Amor bien sentido.